Bonjour à tous et à toutes, chers collègues. Je m'appelle Richard Witanski et je vous souhaite, comme Thierry, la bienvenue à cette table ronde. Nous avons le plaisir d'accueillir dans l'ordre de la table Marguerite Alté, Jean-François Marcel, Daniel Périsset et Laurent Cosnefroy. Alors, avant de présenter plus avant nos collègues, même s'il n'est plus nécessaire forcément, j'en suis sûr de les présenter, et avant de leur laisser la parole, je voudrais dire quelques mots peut-être d'introduction pour préciser l'orientation, les orientations de la table ronde, l'organisation aussi de nos échanges, si vous le voulez bien. D'abord, peut-être, je voulais dire cela en introduction, ça me paraissait nécessaire, saluer l'initiative qui a été prise, en ce cas, je trouve que c'est une bonne initiative de penser ensemble les recherches s'agissant de la formation des enseignants et les recherches s'agissant de la formation des adultes. Les penser ensemble dans leurs contributions respectives, différentes ou communes aux sciences de l'éducation, c'est sans doute un peu un défi parce que ces deux champs, si on considère que ce sont deux champs de recherche, se sont développés de façon un peu indépendante l'un de l'autre. Sans doute que les raisons pour lesquelles chaque champ s'est développé un peu selon ses propres traces et sa propre dynamique, sans doute que c'est lié d'abord notamment aux préoccupations sociales qui ont été à l'origine de chacun des champs de recherche. Dans un cas, on le sait tous, la préoccupation ou les préoccupations sociales qui ont été à l'origine du champ de recherche à propos de la formation des enseignants, c'est bien entendu l'accompagnement de la formation des professionnels intervenant dans l'enseignement scolaire, notamment l'enseignement scolaire obligatoire. Et puis, on le sait bien, s'agissant du champ de recherche, si on considère que c'est un champ unifié, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais enfin, on va le considérer dans un premier temps, concernant la formation des adultes, il s'est développé de façon sans doute un peu plus récente, en lien notamment avec le retour en formation ou le développement des offres de formation et des dynamiques de formation proposées aux adultes en cours d'emploi, puis après, lors des périodes de rupture d'emploi, on le sait bien. Il y a eu des périodes évidemment importantes qui ont jalonné, mais ce n'est pas mon propos que de faire un peu l'histoire de cela, et d'autres collègues seraient plus compétents que moi pour le faire, mais on sait très bien qu'il y a les traces évidemment laissées par l'éducation populaire, il y a évidemment l'apparition dans les années 60 des premiers métiers, des premières appellations de formateurs, dans différents organismes, je pense à l'AFPA, je pense à Peuple et Culture, etc. Et puis, il y a évidemment l'importance des initiatives prises à partir de la loi de 1971 s'agissant du financement de la formation continue, notamment et particulièrement en France, puisque là je parle évidemment avec cette loi du contexte français. Bref, des préoccupations sociales sans doute un peu différentes, mais sans doute des thématiques et des préoccupations qui sont liées s'agissant du champ de recherche à propos de la formation des enseignants et du champ de recherche à propos de la formation des adultes. C'est un peu l'une des vocations de cette table ronde que d'essayer d'explorer, et nous en aurons des temps d'échange ensemble, c'est à la fois ces articulations entre ces deux champs de recherche et puis la contribution de ces champs de recherche aux sciences de l'éducation. Alors, il y a plusieurs questions qui peuvent se poser, comme ça, je me disais en introduction, ça peut préfigurer sans doute des débats que nous pouvons avoir. Par exemple, première question assez simple, peut-on considérer qu'un enseignant en formation est aussi un adulte, puisqu'il s'agit de la formation des enseignants et de la formation des adultes, et donc que la formation d'un enseignant peut être regardée par la recherche de la même façon que la formation d'un salarié d'une entreprise industrielle ou commerciale ou de service? Dit autrement, est-il déraisonnable de considérer que les ressorts de la formation, mais aussi autres facettes, que les ressorts de l'apprentissage sont différents selon qu'il s'agisse d'un enseignant ou futur enseignant ou d'un salarié adulte? De façon liée, les paradigmes de recherche, mais aussi les conceptualisations produites dans les champs de la formation des enseignants et dans celui de la formation des adultes, sont-elles articulables? Et il y aurait bien d'autres questions à explorer, bien entendu. Alors, Nous sommes mis d'accord tous les cinq sur un certain nombre de questions de départ qui permettront à la fois de lancer quelques pistes sur les articulations entre recherche dans le domaine de la formation des enseignants, recherche dans le domaine de la formation des adultes et contributions aux sciences de l'éducation, et évidemment qui ouvriront des échanges avec nous tous plus largement. Notamment trois questions qui sont un point de départ de cette table ronde. Selon vous, quels sont les deux ou trois apports très significatifs aux sciences de l'éducation des travaux de recherche menés en formation des adultes et en formation des enseignants? C'est une façon évidemment directement d'alimenter, vous le comprenez bien, le titre de la table ronde. Deuxième question, y a-t-il une contribution, une influence réciproque, si oui, de quelle nature, des travaux de recherche menés en formation des adultes avec ceux menés en formation des enseignants? Ou s'agit-il de deux champs relativement disjoints? Troisième question, serait-il souhaitable de mieux arrimer les deux champs de recherche? Si oui, que faudrait-il pour mieux articuler les travaux venant des deux champs? Ou alors, deuxième modalité de la question 3, quelles sont les deux ou trois questions points aveugles des travaux de recherche actuels en formation des adultes et en formation des enseignants? Et je sais que nos intervenants se sont plutôt saisis de cette deuxième modalité de la question 3. Alors, quelques éléments d'organisation très rapidement. Nous avons commencé avec un petit retard, donc si vous en êtes d'accord, nous allons vivre un petit décalage, mais qui devrait laisser le temps suffisant pour le déjeuner néanmoins. Nous allons commencer dans l'ordre suivant. D'abord, les deux premières questions, et je proposerai à chaque intervenant de ne pas dépasser une dizaine de minutes, de manière à ce qu'on ait un temps d'échange à la suite de leurs interventions à propos de ces deux questions, mais on peut aussi s'en évader si vous le souhaitez. Et ensuite, on passera à la troisième question avec un temps d'intervention de chacun et chacune un peu plus bref pour qu'on ait aussi un temps d'échange et éventuellement de synthèse de ma part ou de conclusion, même provisoire, si nous en avons le temps. Donc je propose de commencer ou de laisser la parole à Marguerite Alté, qui est à ma gauche, concernant les deux premières questions que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire les deux ou trois apports significatifs aux sciences de l'éducation des travaux de recherche menés dans les deux champs mentionnés et l'idée de contribution ou d'influence réciproque. Merci Marguerite.
Merci Richard. Bien, tu l'as déjà dit, au départ, deux histoires différentes. Formation des adultes, formation des enseignants, l'éducation scolaire centrée, comme vous le savez, sur la transmission de savoir formel, sur les méthodes pédagogiques, donc le savoir, et puis la formation des adultes, formation professionnelle, autour de la pratique qui s'est développée, donc à côté d'éducation scolaire, et parce que la formation des enseignants, elle, pour le secondaire, était restée très académique, très théorique, alors je parle de la France, autour de la maîtrise des savoirs disciplinaires, et pour le primaire, un petit peu plus pratique, parce qu'il y avait les écoles normales, mais une formation professionnelle modalisante entre des enseignants chevronnés qui montraient aux jeunes débutants comment faire, alors que la formation des adultes, centrée sur la pratique professionnelle pour s'adapter aux emplois, aux dynamiques du marché et de la production, s'intéressait à la qualification au départ. Et donc deux épistémologies séparées, plutôt celle du savoir, plutôt celle de la pratique. Ça, c'était le départ. Très vite, il me semble que parce qu'elles sont en sciences de l'éducation, ces deux champs de recherche vont progressivement s'interpénétrer, tout en restant par moments chacun de son côté. Alors, quand Michel Fabre a écrit « Penser la formation », c'était la formation, aussi bien des adultes et des enseignants. Et dans cette formation, dans ce processus de formation, il montrait qu'il y avait trois logiques. Logique socio-professionnelle, logique épistémique des savoirs, logique psychologique de l'acteur de la formation. Et évidemment, selon qu'on était dans la formation des enseignants ou la formation des adultes, ces logiques étaient plus ou moins développées. Il y avait des dominantes. Dominantes socio-professionnelles et psychologiques chez la formation des adultes, dominantes épistémiques et plutôt psychologique, la formation des enseignants. Alors, mon entrée, c'est la formation des enseignants, puisque c'est là-dessus que j'ai travaillé, avec plusieurs collègues, en particulier dans des réseaux qui ont essayé de faire du lien, parce que le REF, Réseau Éducation et Formation, qui avait été mis en place par Jean-Marie Barbier et d'autres au départ, est un réseau où les échanges... Même si les symposiums sont bien ciblés, le symposium des enseignants a toujours été autour de Philippe Pernaud pour la Suisse, Léopold Paquet pour la Belgique, moi-même pour la France, et puis d'autres qu'on associait à chaque symposium, alors que du côté de la formation des adultes, il y avait Jean-Marie et d'autres. En même temps, en 30 ans, il s'est passé des panachages dans ces symposiums, et on a vu à chaque symposium quelqu'un de la formation des adultes venir dans notre symposium, ou inversement, Marc Durand était dans plusieurs de nos symposiums, et inversement, des collègues comme Michel Fabre être dans la formation des adultes. Donc, il me semble que c'est historiquement, ça s'est construit avec beaucoup d'interpénétration et beaucoup d'influence réciproque. Alors, je vais partir de ce qui me semble trois apports significatifs pour la formation des enseignants en montrant les emprunts qu'on a fait à la formation des adultes, mais aussi ce qu'on a apporté à la formation des adultes. Je vais partir du processus de professionnalisation. Alors, processus de professionnalisation des enseignants et de la formation des enseignants. Ce qu'a apporté ce processus, c'est une vraie bascule, puisque ça centre la formation sur une finalité pratique, alors que dans la formation des enseignants, je viens de le dire, on était dans une perspective théorique. Donc déjà, tous nos travaux ces 30 années ont montré qu'il y avait une professionnalisation de la formation des enseignants. Il y avait une avancée. Par contre, au niveau de la professionnalisation du métier de la profession, ça patine et c'est encore en panne. Alors, qu'est-ce qu'on a emprunté à la formation des adultes, vous le savez bien? On a emprunté l'ingénierie de formation, on a emprunté les référentiels, on a emprunté les projets de formation, l'évaluation, l'alternance, j'en parlerai pas parce que je sais que Daniel va en parler. On a emprunté beaucoup de choses tout en les revisitant. Le référentiel de compétences, on l'a pris comme un outil de positionnement, mais on ne l'a pas souvent vraiment utilisé. On a emprunté tout ce qui concerne, bien sûr, les outils de la formation des adultes au niveau des dispositifs, en particulier pour développer cette alternance intégrative. Mais en même temps, on s'en est dédouané en ne le faisant pas. Dans l'alternance intégrative, elle reste chez nous souvent plus juxtapositive qu'intégrative. Alors, il y a des avancées quand même, et un certain nombre de processus de professionnalisation dans les dispositifs de formation sont réels. En particulier, l'élévation du niveau de formation et tout le travail articulation autour des savoirs professionnels et des compétences. Par contre, Philippe Pernaud avait identifié 15 dimensions de ce processus de professionnalisation. Au niveau de la professionnalisation des enseignants eux-mêmes de la profession, il y a la panne. La place du prescrit est toujours aussi forte. Le degré d'autonomie des enseignants n'est pas très développé, il n'est même pas revendiqué par beaucoup. Et surtout, je dirais, la prise collective des acteurs sur leur métier et plus encore, excusez-moi, le contrôle des acteurs sur leur formation n'existe pas. Le processus de développement professionnel est plus ou moins développé parce que, justement, comme ce processus professionnel est l'affaire des enseignants eux-mêmes, en fait, on constate que beaucoup d'enseignants restent sur un métier plutôt artisanal, plutôt des exécutants. Bien sûr, il y a des innovateurs, ils sont nombreux, mais il n'y a pas une masse critique d'innovateurs dans notre métier. Maurice Tardif le dit pour le Québec, ainsi que Claude Essard, mais on le voit aussi, nous, dans nos propres travaux. Alors, dans ce courant de professionnalisation, il y a quelque chose qui est aussi constant et qui nous vient du monde, à la fois du monde des adultes, mais aussi de l'éducation, du monde de l'éducation, c'est le fait que la réflexivité complète la finalité pratique. Et on a vu apparaître le praticien réflexif, qui vient de Schoen, qui n'était pas de l'enseignement au départ, alors que ce concept avait été développé en éducation par John Dewey, comme intervention réflexive avant, mais on voit se développer donc une épistémologie socio-constructiviste en formation des enseignants, qui définit l'enseignant comme un acteur réflexif, apte à juger et à prendre des décisions dans l'action. Sauf que, on le sait très bien, il y a des résistances, et notre travail sur les résistances, notre recherche sur les résistances à la réflexivité des enseignants, montre bien qu'on a encore beaucoup de dispositifs à développer. Donc, ses premiers travaux sur le processus de professionnalisation nous dit oui, on a emprunté des choses, mais on les a empruntées peut-être avec des inflexions. Par exemple, juste sur la réflexion, je dirais, y a bien sûr tous les écrits réflexifs, les portfolios qui nous viennent d'Information des adultes. Mais il y a aussi tout un courant sur lequel moi j'avais travaillé, le micro-enseignement, la vidéo-formation, qui venait de la formation des enseignants, avec autour des traces de la pratique, donc, et qui a donné lieu aux analyses de pratique enseignante qu'on a vues après se développer. Et ce qui était intéressant, c'est que ces entrées-là ne travaillaient pas simplement sur le comment faire, mais travaillaient aussi sur le pourquoi faire. Et il me semble que c'est ce qui diffère un peu dans cette entrée-là, la réflexivité, le travail entre les deux groupes de champs de travaux. Alors, mes deuxièmes types de travaux, un deuxième acquis important, c'est pour moi tout ce qui a été fait, tous les travaux que nous avons faits sur les savoirs de référence des enseignants, les savoirs professionnels. Avant, c'était les savoirs disciplinaires, à enseigner, et à partir des travaux sur les savoirs professionnels, on a pu essayer de définir ce qu'était le savoir enseignant dans ses sources multiples et ses différents aspects, en particulier les savoirs pour enseigner. Et là, on a profité en formation des enseignants de l'importance des travaux, à la fois de toutes les didactiques disciplinaires et des travaux comme ceux du réseau Open, sur l'enseignement, la caractérisation des pratiques, avec des réflexions sur la multidimensionnalité des pratiques, les organisateurs de ces pratiques, les interactions en classe, etc. Tout ça a permis de fournir alors, des concepts qui, s'ils sont transposés par les formateurs, servent de grille de lecture pour penser autrement la pratique. Ça pose aussi le problème de la formation des formateurs. Donc ce champ-là me semble important parce que à partir du moment où on définit un savoir professionnel comme un amalgame de savoirs, comme qui se construit par le travail et dans le travail, ce que les anglo-saxons appelaient le working knowledge, le travail traduit travail ouvragé par tardif, c'est vrai que ces apports-là réinterrogent la formation des enseignants. Le troisième type justement d'acquis, c'est l'analyse du travail enseignant. Et là, évidemment, on va devoir beaucoup d'emprunts au champ de la formation des adultes, mais en montrant justement la spécificité du travail enseignant. Travail enseignant, c'est un métier de l'humain, c'est un travail relayé par les élèves, c'est une action conjointe pour certains, c'est toujours un métier complexe, relationnel, caractérisé par l'incertitude, la détermination, les tensions permanentes entre faire la classe et faire apprendre et de faire construire du savoir. Donc. Mais c'est surtout ce qu'on a montré dans plusieurs travaux, au CREN, moi-même, Isabelle Vinati et d'autres, une co-activité. C'est-à-dire, c'est pas simplement une activité d'enseignant, c'est lié à l'activité des élèves, c'est une co-activité. Et donc, ce qui est intéressant dans le travail enseignant, c'est de travailler sur les ajustements, les compromis, les équilibres, les dosages entre ces deux types d'activités. Alors, évidemment qu'on a emprunté à l'analyse de l'activité et que les travaux de l'ergonomie cognitive, de l'analyse du travail, et bien sûr le champ de formation de la formation des adultes, avec ce qu'avait fait Jean-Marie Barbier, a été utile dans ce travail sur la coactivité et en particulier la différence entre le travail réel et le travail prescrit qu'on a vraiment emprunté. Mais en même temps, si on a utilisé des techniques d'analyse de l'activité, certains de nos collègues travaillent sur l'autoconfrontation, ce qu'on a emprunté sur le travail là, sur les SOSI, les recherches sur l'enseignement, elles, ont utilisé leurs propres méthodes, et en particulier les techniques d'analyse, par exemple d'analyse plurielle ou d'analyse pluridisciplinaire de l'activité. Ce qu'on a fait dans le réseau Open, alors piloté pas seulement par moi, par Marc Bru et Claudine Blanchard-Laville, autour de ces échanges dont je parlais hier entre praticiens pour expliciter mieux et donner davantage d'intelligibilité à cette analyse des pratiques enseignantes, nous a permis de clarifier le travail enseignant autrement, me semble-t-il, que par une analyse de l'activité. C'est une autre, au niveau de la spécificité du relationnel, au niveau de l'intersubjectivité, au niveau de la problématisation. Voilà un concept apporté par Michel Fabre d'Ukraine qui a modifié notre approche de l'analyse du travail enseignant. En travaillant à partir des situations professionnelles, alors oui, la formation des adultes travaille aussi beaucoup sur les situations professionnelles, mais on l'a fait un peu différemment. Voilà, alors, je ne sais pas, j'ai été... Voilà, et bien, je m'arrête là-dessus, tu vois, fais-tu.
Merci.
Donc,
beaucoup.
C'était trois acquis qui me semblent montrer qu'on s'est en permanence nourri les uns des autres, mais qu'avec nos spécificités dans la formation des enseignants, et en adoptant d'autres points de vue que la formation des adultes. Merci.
Merci, Maggie. Merci. Sans transition, je donne la parole à Daniel Périsset, au sujet des deux premières questions également.
Voilà, bonjour. Alors, je vais reprendre pas mal d'éléments dont a parlé Maggie maintenant. Je vais commencer par dire à quel point la question qui a été rappelée ici m'avait mise un peu mal à l'aise, parce qu'en Suisse, nous avons cette spécificité de ne pas vraiment séparer recherche en sciences de l'éducation, formation des enseignants et recherche en formation des adultes, les tout étant par exemple à l'Université de Genève sous le même toit académique, dans une même faculté interdisciplinaire pour l'IUFE, mais on passera à ces détails. Alors, j'ai aussi été interpellée en lisant l'affiche dédiée et le propos de Claude Lelièvre, c'est le numéro 2 du 15 de base de Maggie. J'ai été interpellée en lisant à propos de ce devenir des sciences de l'éducation, son propos sur la lente et difficile conjugaison des formations à l'enseignement et des sciences de l'éducation. Et si des collègues français à qui j'en parlais me disaient s'y retrouver, moi, pas du tout. Je pense qu'il y a là un effet culturel et j'assume que ce puisse être une croyance naïve, mais je pense qu'en Suisse et dans le domaine des formations à l'enseignement, nous pouvons nous réclamer d'une formation par des savoirs, des sciences de l'éducation et de haut niveau pour enseigner. Alors, les modalités de formation à l'enseignement en Suisse méritent peut-être d'être très brièvement précisées. Je parle de la formation au degré primaire, maternel et primaire. C'est un recrutement qui a lieu après le niveau bac, on dit maturité gymnasiale ou équivalent en Suisse. Et puis, il y a 3 ans de formation professionnalisante, théorie en institution, avec quasiment une année de pratique qui est découpée de stages au fil des 3 ans de la formation. Ce sont des stages qui sont fortement accompagnés au début, et puis le jeune est laissé de plus en plus en responsabilité pour être en autonomie complète dans son dernier stage. Et pour chaque stage, il y a des objectifs de formation qui sont posés et qui sont en étroite adéquation avec les contenus de formation et les savoirs dispensés à la haute école. Dans cette formation à l'enseignement, je me situe du côté des savoirs transversaux. Je n'aime pas beaucoup le mot pédagogie qui a été utilisé. Ça ne me convient pas vraiment malgré la terminologie haute école pédagogique, mais ça, c'est une autre histoire et c'est peut-être une histoire interculturelle helvético-suisse entre les traditions germanophones et francophones. Alors pour moi, les apports significatifs de ces dernières décennies reprennent ce que Maggie vient d'évoquer, c'est l'alternance, la professionnalisation, et là j'ai plutôt envie de parler de l'utopie de la professionnalisation, et puis les apports de la pratique réflexive dans ce cadre-là. L'alternance, commençons par l'alternance. Alors, dans la table ronde d'hier qui a été consacrée à la question théorie-pratique, il y a vraiment une dichotomie, voire une opposition qui a été relevée, même si on aime bien dire qu'il faudrait la dépasser, qu'elle est dépassée, qu'elle est ancienne, etc. N'empêche que beaucoup de débats se sont cristallisés justement sur une opposition théorie-pratique. Dans le domaine de l'alternance, il y a des travaux magnifiques qui ont été faits, justement pas en formation à l'enseignement. Je pense notamment au livre de Valérie Cohen-Scali, Alternance et identité professionnelle. Et c'est un livre qui m'a beaucoup inspirée au moment de mettre en place les stages et de réfléchir justement à cette alternance intégrée avec le terrain. Prendre la position des gens du terrain, comprendre leurs enjeux, comprendre pourquoi le jeune est proche du terrain puisqu'il a envie d'aller dans ce terrain-là et qu'il a envie de quitter l'école et la formation en institution qui lui rappelle tout ce qu'il veut abandonner pour entrer vraiment dans le terrain professionnel dont il veut s'émanciper, nous ont beaucoup nourris par rapport à comment est-ce qu'on va collaborer avec le terrain, non pas pour imposer un savoir vrai et juste, mais comment est-ce qu'on va intégrer ces partenaires, comment on va les former aussi à une pratique d'accompagnement des jeunes en formation pour sortir du compagnonnage intuitif. Enseigner est un art, regarde comment je fais et fais la même chose. Donc il y a vraiment cette alternance intégrée, intégratrice, co-construite, qui vient des travaux justement en psychosociologie. Un autre élément, c'est une dominante dans le domaine de l'alternance, eh bien on ne peut pas faire de vraie alternance sans la pratique réflexive. Alors Maggie a déjà parlé des travaux fondateurs de Donald Schoen qui n'ont pas été écrits pour la formation en enseignement. La petite note qui est au fond qui parle de Piaget existe uniquement dans la version française et non pas dans la version anglophone des travaux. En Suisse, alors Maggie a déjà parlé justement de tout le travail de Philippe Pernoud qui lui croyait vraiment en la professionnalisation et en cette alternance et il a beaucoup diffusé et vulgarisé ses travaux auprès des enseignants en publiant auprès du monde scientifique mais aussi avec des contributions très régulières dans la revue professionnelle de l'éducateur. Il a notamment écrit en 2002 un texte qui s'appelle « Adosser la pratique réflexive aux sciences sociales, conditions de la professionnalisation » et qui montre bien que cette pratique réflexive ne doit pas être vaine, ne doit pas être auto-centrée sur ce que je pense, ce que je suis, l'enseignant en tant que personne avec un sous-jacent psychanalytique, mais bien que la pratique réflexive doit être quelque chose qui s'adosse à des connaissances, à des savoirs scientifiques, alors autant des sciences humaines et sociales que de la didactique, car il est vraiment difficile d'analyser sa pratique professionnelle sans connaître un minimum de construction de didactique de l'apprentissage. Donc là, j'y reviendrai après, je veux dire maintenant, ça ira vite, que la pratique réflexive a été une véritable mode d'une analyse autoréférencée, et puis ça a beaucoup desservi justement la pratique réflexive, et notamment au sein de notre institution, il y a eu les travaux d'Alexandre Buys, qui est actuellement à Laval au Québec, et ceux de Sabine Van Hul à l'Université de Genève, qui ont permis de donner un cadre d'analyse à la pratique réflexive en la situant dans des niveaux de régulation, dans des emplois réflexifs et avec la construction d'instruments de médiation structurante et contrôlante permettant vraiment d'estimer le chemin parcouru. Alors Maggie a aussi fait allusion, je vais aller très vite, sur tout ce qui relève de la professionnalisation et de l'utopie de la professionnalisation. Je pense que dans les deux dernières décennies du XXe siècle, on a beaucoup cru que grâce aux formations universitaires, grâce à la recherche en éducation, l'enseignant allait pouvoir s'émanciper, que le corps enseignant allait pouvoir aussi s'affranchir de toute cette hiérarchie bureaucratique. Les travaux du GIRSEF, notamment Vincent Duprier et Christian Marois, ont montré à quel point ce processus de professionnalisation était lié aux nouvelles gouvernances et que quand on parle de professionnalisation, il faut savoir de quoi on parle, si on parle de construction professionnelle d'un individu ou si on parle de processus de développement d'un groupe social, auquel cas il faut faire vraiment être très attentif à tout ce qui se passe au niveau des politiques éducatives. Alors, ce qui m'interpelle par rapport à la professionnalisation actuellement est... J'en ai beaucoup entendu. Chaque fois que j'entends prononcer ce mot, en fait, c'est synonyme de développement professionnel. Et je pense qu'on oublie, et ça, tu l'as aussi dit tout à l'heure, Maggie, qu'on oublie, c'est la dimension politique qu'il y a derrière le processus de professionnalisation. Et c'est une dimension qui, pour moi, est difficile à oublier lorsqu'on parle d'enseignement et de formation à l'enseignement, parce que toutes nos formations à l'enseignement sont vraiment des miroirs des sociétés qui les érigent. Voilà.
Merci beaucoup, Daniel. Sans transition aucune, je donne la parole à Jean-François.
Merci, Richard, et merci aux collègues du CIRNEF et de la SSE pour leur invitation, à la fois pour leur invitation et pour l'organisation de ce colloque que je trouve très bien. Juste pour situer la manière dont j'ai choisi de traiter cette demande, je ne vais pas refaire l'histoire de ces relations entre les deux sphères que Maggie d'abord a fait et qu'a repris Daniel, ni d'ailleurs avoir ou chercher à avoir une vision globale des liens, mais plus égoïstement, dans 10 minutes, je me suis dit que le plus simple, c'était de voir, en fait, ce que, par rapport à mon histoire de recherche, si j'avais des apports à retenir de la formation des adultes, quels seraient-ils ? Et donc, c'est un peu égoïste, vous m'en excuserez, mais c'est les deux apports qui, pour moi, ont été le plus important dans ma construction de chercheur, de formateur et de navigation entre les deux. Alors, le premier de ces apports, c'est un ouvrage qui a été pour moi une révélation, c'est la proposition de Tardif et de Lessard en 1999, qui, les premiers, ont importé les problématiques du travail dans le champ de l'enseignement. Alors, bien sûr, je n'oublie pas les travaux d'Anne Barrère, bien sûr, mais je me suis plutôt appuyé sur les travaux de Tardif et Lessard, et en particulier sur leur théorisation des trois dimensions, l'activité, le statut et l'expérience. Et il me semble que cette théorisation a eu plusieurs fonctions importantes. Déjà, de dépasser un certain nombre de blocages et d'oppositions au niveau des approches de l'action enseignante, je pense en particulier aux oppositions, alors qu'il subsiste encore, on l'a vu hier, entre didactique et pédagogie, ou entre activité et pratique, je prends ces deux, mais il y en a d'autres. Surtout, cette théorisation a permis de prendre en compte l'ensemble des dimensions du travail enseignant. Alors, aussi bien dans la classe, alors ça me rappelle quelques débats, puisque tu parlais d'Open tout à l'heure, dans la classe, certes, mais aussi hors de la classe, toutes les formes partenariales, que ce soit les formes de collaboration, les formes de coopération, ou les formes plus collectives, comme les dynamiques de conception ou de résistance, les coordinations, de pilotage, etc., qui concernent chacune, certes, de manière différente, les questions d'enseignement, tant au niveau des curricula que des savoirs ou des élèves, mais les questions d'enseignement n'occupent plus nécessairement une place centrale dans ce travail-là. Bref, le travail enseignant ne se limite pas à enseigner. Et je crois que ça, c'est des apports importants de la contribution de nos collègues québécois. Autre apport, c'est de ne pas s'en tenir à l'action enseignante, c'est-à-dire dépasser l'activité et les pratiques d'enseignante ou d'enseignement, les deux. Alors, je le dis d'autant plus facilement que j'ai beaucoup travaillé dans ce registre, mais ce modèle a permis aussi d'envisager les questions d'identité, de développement, de temps, d'organisation, de division du travail, de souffrance et de santé au travail. Et je crois qu'il a ouvert de manière importante ce champ-là. Et dernier point, ou dernier rapport de ce premier rapport, celui de désenclaver le métier d'enseignant, qui était longtemps envisagé comme un métier très isolé par ses spécificités, pour le repositionner au sein plus large, d'un groupe plus large, des métiers destinés à autrui, pour reprendre l'appellation de Thierry Piot dans son AGR. Donc, tous ces apports-là, me semble-t-il, sont venus, en tout cas, ou ont été initiés, où la contribution a été importante, par le travail de Tardif et Lessard autour du travail enseignant. Le second apport, il est plutôt en lien avec plusieurs des démarches que j'ai découvertes dans la formation des adultes sur la possibilité d'ancrer la formation des enseignants, du coup, dans les résultats de la recherche. Alors, bien sûr, cette mobilisation est ou serait intéressante en formation des enseignants. Je crois pouvoir avancer sans trop être contesté que les masters MEF ne la permettent pas vraiment et que la formation continue, devenue quasiment anecdotique, pas vraiment davantage. Donc, cet engagement pourrait constituer, me semble-t-il, pourrait constituer un magnifique chantier pour les 50 ans ou 50 prochaines années des sciences d'éducation. Mais cet ancrage requiert des précautions épistémologiques précises et rigoureuses, celle en particulier d'éviter toute forme de confusion entre la production des savoirs par une démarche scientifique régie par une validation scientifique et la mobilisation de ces résultats dans l'élaboration, par exemple, de scénarios de formation qui, eux, relèvent davantage de l'ingénierie de formation et qui sont plutôt régis par une validité sociale. Je reviendrai sur cette question, si le temps est permis, dans la seconde partie de mon intervention, je ne sais pas si c'est possible, mais L'idée, c'est justement de continuer, enfin, j'insiste sur la nécessité de continuer à revendiquer une recherche en sciences et éducation qui produise des savoirs scientifiques sur l'objet éducation et d'assumer tout aussi clairement que la mobilisation plus ou moins directe des résultats ou des méthodes pour la formation relève de notre registre. Ne laissons pas penser que nous fonctionnons à partir d'un mode de pensée selon lequel la formation pourrait être élaboré scientifiquement, pas plus d'ailleurs qu'une méthode d'enseignement de la lecture, pour faire écho à des débats actuels. Non, car si la recherche peut et doit alimenter, nourrir, enrichir, interroger ou analyser la formation, elle ne peut certainement pas la décréter au nom de la science. Alors, pour terminer, je voudrais prendre un exemple qui sera très bref. Lorsque je travaillais dans l'enseignement supérieur agricole à la formation des enseignants de l'enseignement agricole, nous avions élaboré, à partir du modèle Tardif et Lessard, un dispositif de recherche qui visait à alimenter un observatoire du travail des enseignants de l'enseignement agricole. Deux phases de tests avaient permis de le rendre tout à fait opératoire, mais les instabilités ministérielles n'ont jamais permis de le stabiliser et de le pérenniser. Pourtant, nous avions eu même l'aval du Conseil général, qui est l'équivalent de l'inspection générale. Mais voilà. Il présentait l'intérêt de couvrir les trois dimensions du travail enseignant et les résultats obtenus, même sur un échantillon réduit mais suffisamment consistant pour repérer quelques tendances lourdes, auraient pu être mis à profit pour contribuer à faire évoluer à la fois les contenus et les modalités de formation. Nous avons tenté de relancer le projet dans un autre contexte, l'éducation nationale, puisqu'on a travaillé avec Richard et l'équipe du CIRNEF en ciblant l'observatoire sur l'entrée dans le métier pour les ME2 et la première année d'exercice, en commençant par le primaire, après on voulait passer à l'enseignement secondaire, puis professionnel, pour un supérieur. Mais là encore, nous avons eu du mal à trouver des relais. Il me semble que ce court exemple dit des choses au niveau de la frilosité du lien entre recherche en sciences, éducation et politique, car au-delà de contribuer à alimenter les formations, l'Observatoire avait deux autres fonctions. Déjà, celle de permettre aux acteurs des établissements de donner à voir leur travail au quotidien, et de tordre le cou aux clichés qui circulent à son propos. La démarche était résolument participative, et leur réussite comme leur difficulté bénéficiait là d'une forme d'expression qui, à ma connaissance, n'existe pas. Et puis, plus socialement parlant, ou plus largement parlant, celle de documenter dès le moyen terme les évolutions du système et de permettre d'ajuster les modes de gouvernance ou de pilotage tant au niveau du ministère qu'au niveau régional, voire au niveau local des établissements. Je vous avais promis un exemple bref, j'ai tenu parole. Je regrette quand même que le projet de recherche ait été lui aussi bref. Bref, je m'arrête là.
Merci Jean-François. Laurent ?
Oui, merci. Je remercie également donc, les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité. Et la façon dont je procédais, est la suivante. Donc, je me suis demandé quel était l'apport un peu spécifique de la formation des adultes et à partir de là, en quoi ça pouvait transformer notre conception de l'apprentissage et par ricochet, en quoi ça pouvait transformer donc, nos conceptions de la formation et l'acte même d'enseigner. Et ensuite, donc, j'exposerai l'impact que ceci peut avoir sur d'autres champs pour revenir à la première question que posait Richard, finalement, si j'ai le temps, bien entendu. Au fond, formation des adultes, formation des enseignants, deux champs différents ou pas deux champs différents, et ma réponse sera de dire non, c'est un seul et même champ, justement. Alors, je pense que la spécificité de la formation des adultes, bien entendu, c'est d'introduire le travail. Et introduire le travail, ça a deux conséquences extrêmement importantes à mes yeux. C'est d'une part, par rapport aux activités purement scolaires, c'est que les activités au travail sont pour l'essentiel socialement partagées. Et ça signifie qu'on est susceptible d'apprendre avec autrui dans ce qu'on appelle couramment des activités collaboratives. Ça, c'est une première conséquence. Et ça met sur le devant de la scène cette idée que l'apprentissage, finalement, c'est un acte social. Et ça nous amène beaucoup à reprendre cette question qui n'est qu'un point de départ, finalement, pour essayer de réfléchir aux conditions qui doivent être réunies pour qu'un tel apprentissage collaboratif puisse se mettre en œuvre. Deuxième point, c'est que le travail est source d'apprentissage lui-même. L'apprentissage est un sous-produit des activités de travail. On n'a pas forcément l'intention d'apprendre, néanmoins on peut apprendre presque à son insu. Et du coup, c'est dire aussi qu'apprendre, ce n'est pas uniquement dans des contextes formels qu'on le fait, mais dans des contextes non formels, voire informels. Et c'est donc ça alimente une réflexion autour des apprentissages informels que je déclinerai en trois points. D'abord, je pense que ça met sur le devant de la scène la question de l'autonomie du sujet, parce que de l'apprenant, parce que pour apprendre de manière informelle, en fait, il faut se saisir des opportunités qui se présentent à nous, voire en créer, et donc il faut être proactif. Et c'est donc aussi une réflexion sur l'autonomie d'apprenant, qui est quand même une réflexion extrêmement importante dans le courant de la formation des adultes. Souvenez-vous que l'apprentissage autodirigé, l'autodirection, c'est un pur produit de la formation des adultes. Et dans cet champ de recherche, la question de l'autonomie d'apprenant est au premier plan. Et ça alimente aussi une réflexion sur les connaissances de deux manières. Finalement, quelles sont les structures de connaissances qui sous-tendent l'activité efficace? S'il n'est pas besoin d'avoir des savoirs théoriques pour être efficace dans l'action, alors quelles sont ces structures de connaissances qui vont sous-tendre l'activité efficace? Et on sait qu'il y a eu une énorme réflexion autour de ça, avec différents concepts, comme le SHEM, mais comme le savoir d'action. Et troisièmement, ça interroge le rôle des connaissances. Et bien loin que de reléguer la question des connaissances à l'arrière-plan, l'irruption de la notion de compétence et d'efficacité de l'action, au contraire, à mon avis, et je pense que ça, c'est un grand apport de la formation des adultes, ça relance la réflexion de la connaissance, parce qu'au fond, la question qui se pose, c'est, mais ces connaissances théoriques, quelles transformations doivent-elles subir pour alimenter l'action efficace? Et il ne s'agit pas de dire qu'il n'est pas nécessaire d'apprendre des connaissances, qu'il n'est pas nécessaire de les mobiliser, mais peut-être que il ne faut pas les mobiliser telles qu'on les a apprises. Et ça me fait beaucoup penser à des travaux qui ont été faits dans un autre champ, la psychologie cognitive, par exemple aux travaux qu'a mené Claude Bastien il y a quelques années lorsqu'il travaillait à Aix-Marseille, et qui distinguait une organisation rationnelle des connaissances, une organisation fonctionnelle des connaissances. L'organisation rationnelle des connaissances, c'est l'organisation effectivement, que produit l'enseignement. Mais pour que ces connaissances soient sous-tendent de l'action efficace, eh bien, il faut qu'elle soit réorganisée dans d'autres réseaux de connaissances, donc passage du rationnel au fonctionnel. Donc, pour moi, ce sont des apports essentiels sur la conception de l'apprentissage que nous amène la formation des adultes. Et bien entendu, ça a des conséquences sur la formation et l'acte d'enseigner. D'abord, bien entendu, l'introduction du travail dans la formation, qui est un point capital, qui se fait de façon différente. Moi, je vois trois modalités, des dispositifs formels dans le cas des situations d'alternance, je pense notamment au tutorat, des dispositifs, on en a parlé déjà beaucoup, formels aussi, de retour sur l'activité, qui a une double fonction d'extraction des connaissances, donc registre cognitif, mais aussi une fonction de construction de l'identité professionnelle sur un versant plus subjectif, donc toutes les formes d'analyse pratique, d'instruction au SEUSI, d'autoconfrontation croisée, et puis enfin des dispositifs qui miment des situations de travail sans être véritablement des situations de travail. Je pense notamment aux formes d'apprentissage par problème, d'apprentissage par projet, et qui incitent fortement à des apprentissages collaboratifs. Et puis, deuxième point, l'autre conséquence, hormis l'introduction du travail de la formation, corollairement, c'est l'introduction à de nouveaux modes d'intervention pour les enseignants. Et il s'agit, autant pour être tuteur que pour mener des analyses de pratique, que pour animer des apprentissages par projet, par problème, il ne s'agit pas d'enseigner classiquement, il s'agit d'enseigner autrement. Et vous savez aujourd'hui le succès que rencontre le concept d'accompagnement, par exemple. Peu importe ici de discuter la validité scientifique de ce concept, mais ce qui est important, c'est de montrer que ça nous amène à repenser les compétences des enseignants, ou à les repenser, ou en tout cas à considérer que enseigner suppose une forte plasticité qui nous fait passer à des modes d'enseignement magistraux, à des choses qui sont beaucoup moins magistraux. Conséquence de ça, donc, à mon avis, ça a un impact très fort sur la formation des enseignants. Bien sûr, on a des dispositifs formels d'alternance, comme le tutorat. On a des dispositifs, d'analyse de pratique, on en a parlé. Et bien sûr, une réflexion sur quelles sont les compétences à mettre en œuvre pour pouvoir mener dans la formation des enseignants, et là je parle au niveau formation de formateurs, pour tutorer les enseignants en formation ou pour mener des analyses de pratique. Il y a un autre impact extrêmement fort qui est l'enseignement supérieur. Et donc, je trouve que on ne fait pas souvent le lien entre l'enseignement supérieur et la formation des adultes. À tort, je pense que la formation des adultes a une grande influence aujourd'hui sur l'enseignement supérieur via le regain d'intérêt qu'il y a pour ce qu'on appelle la pédagogie dans l'enseignement supérieur. Et la réflexion autour de la pédagogie dans l'enseignement supérieur est importante aujourd'hui, comme on le sait. Les formes donc, que j'évoquais tout à l'heure d'apprentissage par projet, par problème, sont omniprésentes dans l'enseignement supérieur. L'objectif, c'est bien de donner plus d'autonomie aux étudiants. Et donc, on a là tout un ensemble de réflexions, et de réflexions théoriques et pédagogiques, qui ont été déjà extrêmement travaillées dans la formation des adultes. Et bien entendu, pour mettre en œuvre ces formes de pédagogie active, comme l'on dit, il est important aussi de réfléchir à développer des compétences d'accompagnement. Pardonnez-moi. Cet impact est normal, finalement, sur l'enseignement supérieur, parce que l'horizon de l'enseignement supérieur, c'est bien évidemment le travail et l'insertion professionnelle. Et pour terminer, dans les quelques minutes qui me restent, je dirais que là, j'ai évoqué le trajet et l'influence de la formation des adultes sur la formation des enseignants. Finalement, je n'évoquerai pas le trajet inverse, parce que, à mon sens, il n'y a pas lieu de distinguer les deux conceptuellement. J'entends bien que historiquement, bien sûr, il faut distinguer les deux, mais je me demande s'il est pertinent et économique intellectuellement de distinguer les deux champs de la formation des enseignants et de la formation des adultes, dans la mesure où nous avons affaire finalement à des cadres théoriques qui peuvent être identiques, et on en a déjà parlé dans les précédentes interventions, et à des modes d'analyse qui sont identiques, formés, que ce soit un contrôleur aérien ou un enseignant. Le former, c'est d'abord connaître le travail qu'il a à faire, et donc du coup, c'est d'abord analyser le travail, et pour analyser le travail, on peut bien entendu faire appel au même cadre théorique dans l'un et dans l'autre cas. Former, c'est aussi s'intéresser à l'efficacité de l'action. On peut poser la question pour le contrôleur aérien, on peut bien sûr poser la question pour l'enseignant. On n'aura pas la même réponse, mais ce que je veux dire, c'est que la question est incontournable dans les deux cas. Donc je ne suis pas certain que ce soit économique intellectuellement de distinguer ces deux champs. Moi, l'agencement que je vois, c'est de dire que l'enseignement, c'est un sous-ensemble d'un groupe plus vaste qui est celui des métiers d'interaction humaine, soigner, socialiser, les métiers adressés à autrui, hein, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et à Caen, sous la houlette de Thierry Piot, il y a eu une grande réflexion autour de ça. Et ces métiers d'interaction humaine font partie intégrante du champ de la formation des adultes, sans qu'il y ait, à mon avis, et même s'il y a des spécificités, bien sûr, dans ces métiers, qu'il y ait à chercher des cadres théoriques forcément différents.
Merci Laurent, merci à vous quatre pour la richesse de vos contributions et assez complémentaires et qui, on le pressent, pourrait susciter aussi une discussion parce qu'il y a quelques nuances. Alors je vous propose peut-être d'avoir un temps d'échange assez libre en fonction des réactions qui vous viennent, des questions autour de, évidemment, de la thématique de notre table ronde, la contribution de ces deux champs de recherche aux sciences de l'éducation. Les articulations éventuellement entre ces deux champs de recherche. Oui.
Pour le film, il faut que je parle dans la boîte. Oui, donc mon élément associatif, c'était que pour moi, l'enseignement est quand même un métier à part, parce que tout enseignant a été élève. Et il me semble qu'il y a très très peu de métiers qui sont concernés, à part éventuellement le fait d'être parent ou on a tous eu des géniteurs, pas forcément des parents, mais au moins des géniteurs. Et je pense qu'un enseignant, il a été élève, et que ça, c'est une vraie spécificité de ce métier, et que dans ce sens-là, on ne peut pas faire abstraction de cette histoire de son rapport à son futur métier qui s'est noué dans ces temps-là. Vous savez d'où je parle des approches cliniques, et évidemment, nous travaillons de façon privilégiée l'histoire de l'élève dans le futur enseignant, et ça me semble être vraiment quelque chose d'incontournable. C'était juste ça que je voulais évoquer. Ça me semble être vraiment une spécificité. Dans aucun des métiers de la relation, c'est comme ça, à part celui-là.
Les médecins et les patients, peut-être.
On peut y avoir échappé.
Oui. Tous ne sont pas malades.
Alors, je vous propose, sauf s'il y a éventuellement une réaction autour de la table, sinon on peut prendre deux ou trois réactions dans la salle ou questions.
Parmi les apports de la formation des adultes dans le métier d'enseignant, j'ai vécu deux choses très différentes, en lycée d'une part et en formation d'adultes d'autre part, dans un centre de formation d'apprentis au niveau BTS. Au lycée, nous avons subi, j'ai bien dit le mot subi, c'est important, des recommandations, voire même des obligations professionnelles qui s'appellent compétences, pédagogie par objectif, travail par projet, travail par problème, contre l'enseignement magistral, en oubliant une chose, c'est que l'efficacité optimale de notre métier est un panachage entre les deux genres. Nous avons besoin de magistral pour pouvoir bien mener les autres manières d'opérer et d'enseigner, absolument. Monsieur a parlé d'un point qui m'a beaucoup plu là, à l'instant, tout enseignant a été élève. Je nuancerai en disant tout professionnel a été formé dans une entreprise, a eu un apprentissage aussi. Et le point vécu en centre de formation d'apprentis, alors là c'était plus dramatique, donc j'avais continué en bonne partie mes pratiques de lycée dans le centre de formation d'apprentis avec un certain succès auprès des stagiaires. Par exemple, une jeune équipe de 20 stagiaires était au centre de formation pendant 2 semaines avec moi en physique. Je devais leur apprendre la thermodynamique. Oui, c'était quand même pas une chose très très facile. Et ça s'est même bien passé. Ils ont parti en entreprise pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, ils sont revenus. Donc je voulais les accueillir avec un grand plaisir. Or, ils ont complètement changé d'attitude. Et il y en a même un qui, à titre de délégation muette de la part de leurs camarades, nous a dit « Nous ne sommes pas là pour penser, pour réfléchir. » Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Eh bien, le milieu dans l'entreprise, je peux même vous dire laquelle, c'était le tunnel sous la Manche, pour fixer les idées. Ils rentrent dans l'entreprise, et là, ils refusent de mettre en œuvre leur pensée personnelle et leur logique personnelle. C'est un apport négatif de la formation des adultes sur le métier d'enseignant. Voilà, je vous remercie.
Merci. Alors, ça avait été parfaitement initié au tout début. Peut-être vous présenter à chaque fois que vous prenez la parole, de manière à ce qu'on vous identifie. Voilà,
mais c'était... J'ai oublié de me présenter. Denis Chateaubec, professeur de physique chimie en retraite en lycée.
Merci.
Dans la région de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais.
Très bien.
Et je n'ai pas eu de carrière universitaire.
Parfait. Merci. Bernard Schnulli.
Oui, donc Bernard Schnulli, Université de Genève. J'aimerais faire une ou deux petites réflexions sur la spécificité de la formation des enseignants. Je pense qu'on peut dire enseigner, qui est quand même au cœur, même s'il y a beaucoup d'autres choses autour du travail de l'enseignant. Le rapport entre l'enseignant et l'élève est médiatisé par quelque chose qui est au cœur du métier, à savoir le savoir. Ce qui fait que la formation des enseignants est nécessairement toujours double. Elle doit à la fois porter sur des dimensions, on pourrait dire, communes à d'autres formations qui sont de l'ordre de l'humain, mais en même temps, il y a tout un travail à faire qui est spécifique, qui porte précisément sur ce qui médiatise la relation entre l'enseignant et l'élève, à savoir les savoirs, les savoirs sous des formes qui sont celles qu'il faut apprendre disciplinairement, ou des savoirs qu'on appelle très souvent aussi des savoirs transposés, c'est-à-dire apprêtés pour pouvoir être enseignés. Et donc là, il y a une spécificité, à mon avis, qu'on ne peut pas sous-estimer, et puis qui font que quand même la formation des enseignants, elle est fondamentalement différente. Et ce qui est intéressant, donc j'ai effectivement aussi lu avec énormément d'intérêt le travail de Tardif et Lasserre de 1991-19, dans lequel précisément ils disent que sur cette question-là, à la page 247, que ce travail-là est peu développé. Et je pense qu'il y a ici, précisément dans cette spécificité, curieusement, peu de travail.
Merci. Alors, c'est peut-être aussi une spécificité qu'on peut partager avec la formation de formateurs, par exemple, même s'il y a sans doute des nuances à apporter. Merci pour cette intervention. Une dernière, dans un premier temps, hein, puis des réactions autour de la table éventuellement.
J'y vais ? Oui.
Oui.
Oui, bonjour. Thérèse Pérez-Roux, je suis professeure à l'Université Paul Valéry de Montpellier. Ce que je vais dire s'inscrit dans la continuité de ce qu'a dit Bernard Chenely. Il me semble quand même qu'il y a une différence assez forte par rapport donc justement à ces enjeux de savoir et aussi par rapport à la temporalité dans laquelle on se situe. La formation des enseignants est une formation, je dirais, qui suppose cette double entrée, hein, une entrée par la construction aussi des savoirs, à et pour enseigner. Et en même temps, on voit bien que se jouent là des processus identitaires forts qui sont finalement assez peu pris en compte pour des raisons de timing, pour des raisons de référentiel à tenir, de construction d'un professionnel dans une visée de professionnalisation en intention. On a vraiment, il me semble, cette dimension-là qui est extrêmement forte. Alors que pour intervenir aujourd'hui plutôt dans le cadre de la formation des adultes, bien sûr qu'il y a des enjeux de savoir, mais le temps qu'on se donne pour les processus d'appropriation n'est pas le même. La question de l'expérience revisitée au regard des modèles théoriques ou au regard de dispositifs mis en place s'inscrit dans une dynamique qui, de mon point de vue, est tout autre. Il y a la question de former dans le sens de prise en compte du sujet. Et pour terminer, pour ne pas être très longue, il me semble que dans la formation des enseignants où j'ai longtemps œuvré, le sujet, on essaie de le tenir à distance. Lorsqu'on lui ferme la porte, il rentre par la fenêtre. Mais en même temps, ce n'est jamais, c'est toujours aux marges. Ça suppose que des formateurs s'emparent de cette question-là et la tiennent comme étant un élément constitutif de la construction du professionnel. Mais c'est toujours dans des négociations qui sont complexes. Enfin, je ne connais plus maintenant la manière dont ça se met en place dans les SP, mais en tout cas, il faut une volonté de l'équipe de direction, des collectifs de travail, pour que ceci soit pris en compte. Et il me semble que cet aspect-là est davantage tenu dans la formation des adultes.
Merci, Thérèse. Je vous propose qu'à partir de ces quatre réactions, questions, il y a un moment d'intervention de nos collègues de la table ronde. Daniel ?
Oui, mais cette dernière question m'intéresse et puis je la lis avec celle qui a été posée tout au début, la première des questions par rapport à la clinique. Et c'est vrai que la prise en compte du sujet, on ne peut pas l'évacuer, elle existe. Mais c'est vrai que ce n'est pas ce sujet-là qui doit prendre toute la place. Dans la mesure où une formation doit tenir compte de ce sujet et lui offrir le cadre nécessaire pour que ce sujet puisse être là et s'exprimer. Parce que ça doit se faire dans un cadre, et dans un certain cadre. Ce qu'on avait constaté chez nous, en tout cas, c'est que quand ce cadre n'a pas été donné, ce sujet a pris toute la place. Et finalement, tout ce qui était pratique réflexive, ça devenait une espèce de thérapie sauvage absolument absurde. Parce que la formation, c'est un lieu. La formation n'est pas un lieu thérapeutique. Les dispositifs de formation peuvent être thérapeutiques, mais ce ne sont pas des lieux thérapeutiques. Et la thérapie doit se passer ailleurs. Et c'est vrai qu'il faut donner la place au sujet, ne serait-ce que pour réaliser qu'il y a une thérapie à faire, et que pour le sujet puisse réellement devenir un professionnel et entrer dans d'autres dispositifs.
Merci.
Non, mais c'est non. La première question. On parle de clinique. Je sais que ce n'est pas de la thérapie non plus, mais je dis que c'est une des dérives qui est arrivée.
Oui.
Exactement.
C'est pas de ça dont je parle.
Non. On est d'accord. On est d'accord.
Maggie, oui.
Oui, je pense qu'effectivement, peut-être qu'on parle trop de formation initiale, mais si on parle de formation continue, aussi bien Tizou que Philippe, vous serez d'accord que là, le sujet sera dans un développement professionnel à prendre en compte et qu'on n'a pas beaucoup de formation continue dans la formation des enseignants. C'est peut-être là le problème, mais c'est bien là que pourrait se prendre en compte le sujet de façon plus importante, parce que dans la formation initiale, le temps, je suis d'accord avec ce que tu disais, le temps est vraiment très court. Ça n'empêche que le sujet doit être pris en compte, bien évidemment. On est d'accord.
Y a-t-il d'autres réactions autour de la table ?
Non. Non, simplement pour dire, pour revenir à la question de la spécificité des enseignants, c'est que dans toute formation, le sujet cherche à faire valoir aussi des intérêts personnels. Donc, encore une fois, je pense que au-delà de la spécificité, je suis d'accord avec ce qu'a dit Philippe Chausse-Courte, hein, bien entendu, c'est une position très spécifique, mais à un autre niveau plus large, on peut considérer aussi que cette dimension personnelle, elle est présente d'une autre manière dans toute formation.
Alors, si vous voulez, on peut prendre encore quelques questions, réactions.
Oui, Bruno Robe, j'avais une interrogation à vous soumettre. En fait, c'est une hypothèse que fait mon collègue Gilles Monceau, qui travaille dans le champ de la socioclinique institutionnelle. Il explique, d'après lui, que la valorisation de la posture du praticien réflexif, de tous les travaux autour du praticien réflexif, et la posture individuelle qui en découle dans le développement, notamment des processus de professionnalisation des enseignants, mais pas seulement, à partir des années 90, il dit que cette valorisation de la posture du praticien réflexif s'est construite au détriment de processus collectifs de recherche-action, et notamment avec la conséquence ou les conséquences de faire passer au second plan les dimensions institutionnelles. Et vous avez peu parlé, me semble-t-il, dans vos interventions respectives de ces dimensions institutionnelles. Et Gilles Monceau va jusqu'à dire, un propos que partage aussi Jean Housset, d'effacer la figure du pédagogue. Donc je voulais savoir ce que vous pensiez de cette hypothèse.
Alors, qui souhaite...
Oui, je veux bien essayer de répondre. Or, évidemment, je connais assez bien les travaux de Gilles Monceau. Sur certains points, je serais d'accord avec lui. Enfin, je suis même, sur ce point-là, en tout cas, pleinement d'accord avec lui. Mais, alors, c'est vrai que la dimension institutionnelle, puisque on l'a peu abordée, mais il y a quand même, et c'est aussi important, et je ne sais pas si ça a été bien entendu, peut-être que je l'ai dit trop rapidement, mais ce que je disais sur le fait que le métier d'enseignant, ce n'était pas qu'enseigner, ça ne voulait évidemment pas dire que l'enseignant n'enseignait plus, qu'il ne fallait plus s'intéresser à cette question-là. Ce n'était pas ça l'idée. C'était simplement qu'il y avait d'autres dimensions dans le métier et que la formation avait aussi à les prendre en charge. Et il me semble que ces autres relations font plus directement le lien avec les questions institutionnelles, notamment dans les partenariats ou dans d'autres dispositifs, qui font que on est obligé de convoquer ces dimensions institutionnelles pour traiter les autres facettes du métier, même s'ils ne sont pas séquencés comme ça, qui ne sont pas de l'enseignement stricto sensu. Je ne sais pas si je réponds complètement à ta question.
Merci pour ce premier échange. Je vous propose qu'on passe à une... Ah, oui. Alors très rapidement, si vous voulez bien.
Bonjour, Vincent Chaudet, donc docteur en sciences d'éducation donc de Nantes et de l'UCO. J'ai exercé comme éducateur spécialisé une vingtaine d'années. Et je suis actuellement directeur pédagogique d'un institut de formation de travail social. Je voulais juste faire une remarque en écho à ce qui a été dit tout à l'heure sur le modèle qui proposait la formation professionnelle comme étant la catégorie générale et puis l'entrée des métiers comme des sous-catégories, à considérer qu'il fallait voir effectivement le métier d'enseignant comme une catégorie à part. Je suis assez d'accord pour dire qu'il y en a d'autres, en fait, peut-être qu'elles sont toutes à part. Donc je vais, pour les travailleurs sociaux notamment, qui n'a pas été éduqué familialement avant de prétendre éduquer les autres ou socialiser avant de socialiser les autres? Et je pense que c'est vrai aussi pour les conducteurs d'avion, ceux qui travaillent dans l'aéronautique, qui ont peut-être aussi dans leur histoire de vie un rapport, quelque chose en rapport avec le voyage. Voilà, c'était simplement une remarque pour compléter, faire apparaître aussi le travail social dans le paysage.
Très bien, merci. Si c'est une réaction, pas trop une question, si vous voulez bien. Ou... Allez-y. Allez-y.
Donc, Catherine Boyer, Théodile Cyrel à Lille. Voilà, vous avez évoqué l'idée de l'efficacité de l'activité dans les formations. Et moi, ma question, c'est est-ce que finalement, il s'agit de penser la réussite de cette activité ou la compréhension, en fait, des phénomènes qui sont derrière ? Parce qu'à l'école, il y a beaucoup de rapports aux formes d'évaluation, PISA, etc. Et du coup, se pose aussi le problème dans les formations professionnelles. Est-ce que ce rapport entre réussir immédiatement ou comprendre, qu'est-ce qu'il en est dans ces deux formes de formation ? Et quel rapport à l'évaluation, en fait ?
Alors, c'est une question et une question juste lourde.
Rapidement, en fait, oui, puisque j'avais évoqué cette question. Non, c'est une question plus large, c'est-à-dire c'était... Pour dire simplement que s'interroger sur l'efficacité de l'action, c'était incontournable, quel que soit le métier, enseignant par enseignant, et que c'est une question qui amène à définir une combinaison de normes objectives et subjectives, bien entendu. Voilà, j'allais pas plus loin que ça, et bien entendu, la manière dont on peut définir l'efficacité de l'action pour un enseignant, dès l'instant où il y a aussi des normes subjectives qui entrent en ligne de compte, ça veut dire qu'il n'y a pas un modèle prescriptif de l'efficacité de l'action.
Merci. Alors, c'est très frustrant pour moi parce que j'aurais aussi deux, trois choses à dire, mais c'est pas grave. J'ai accepté ce rôle, donc je voulais juste dire, peut-être en lien avec deux, trois échanges qui ont eu lieu tout à l'heure, qu'il y a peut-être une contribution, il me semble, des recherches menées en formation d'adultes et en formation des enseignants aux sciences de l'éducation qui portent notamment sur l'utilité de prendre en compte, des itinéraires, c'est-à-dire replacer l'étude des personnes, des publics que l'on regarde dans le cadre d'une description et d'une analyse d'un itinéraire. Et là, il y a des apports méthodologiques aussi importants, je crois. C'était juste pour compléter autour de l'étude des trajectoires. Et ça croise des remarques de Tizou, de Bernard Chenu et d'autres remarques. Je vous propose un deuxième temps plus rapide, évidemment, puisque le temps passe et il est presque midi et demi, mais je pense que tout le monde était d'accord pour qu'on aille jusqu'à 12h45. Donc, en disant ça, je prends un peu le... je m'engage pour tout le monde. Je vous propose, mais un tour de table beaucoup plus rapide, puisqu'on avait dit 2-3 minutes. L'idée pour un peu clore, mais tout à fait provisoirement, cette table ronde, c'est de se demander quelles sont les deux ou trois questions, point aveugle, des travaux de recherche actuels en formation des adultes et ou en formation des enseignants qui mériteraient d'être travaillés, justement, au plus grand bénéfice des sciences de l'éducation. Alors, qui veut commencer ? Il n'y a pas forcément d'ordre. Laurent ?
Oui, donc pour moi, sans hésiter, le point aveugle, c'est la formation des enseignants du supérieur. Alors là encore, spécificité des enseignants, mais à l'intérieur même des enseignants, spécificité des enseignants du supérieur, qui serait incomparable aux autres enseignants dans la mesure où, dans le supérieur, il y a à la fois la recherche et de l'enseignement. Et je pense que penser les enseignants du supérieur de cette façon, ça empêche précisément de voir les liens possibles et à mon avis indispensables avec la formation des enseignants de l'école élémentaire et du secondaire. Et ça empêche de faire circuler des savoirs entre primaire, secondaire et supérieur. Juste un exemple de ça, nous avons tous travaillé dans l'UFM dans les années 2000 sur l'analyse de pratique. On a accumulé beaucoup d'expériences autour de ça. On l'a travaillé avec des manières de faire différentes et probablement aussi avec des fortunes diverses. Il y a là un terreau extraordinaire, une mémoire extraordinaire qui pourrait être utilisée pour penser la façon dont on pourrait concevoir ce type de dispositif d'enseignement supérieur sans chercher à recommencer, à réinventer la roue. Donc, ce que je crains aussi, c'est que, avec la question de la formation des enseignants du supérieur, on la pense dans une extraterritorialité qui empêche de faire ce lien qui, à mon avis, est indispensable. Néanmoins, ça n'empêche pas qu'il y ait des spécificités, et j'aimerais dire aussi quelque chose là qui, outre la recherche, il y a une autre spécificité. qui m'amène à aborder un point qui, à mon avis, n'a pas été beaucoup abordé, en tout cas dans les tables rondes, c'est la formation à distance. La formation à distance, d'une certaine façon, c'est la formation des adultes, même si ce n'est pas catégorisé de cette façon-là dans nos découpages institutionnels, dans la mesure où, bien entendu, c'est un mode de formation qui est privilégié par les adultes. Et du coup, ça complexifie la question et raison de plus pour s'y intéresser de la formation en pédagogie et l'enseignement supérieur, parce que tout à l'heure, si j'ai dit qu'il fallait aussi, pas simplement être dans une position de magistère, mais à apprendre à accompagner, cette question-là se dédouble, parce qu'accompagner en présentiel et accompagner à distance, c'est probablement pas la même chose. Et donc, il y a une réflexion à mener autour de ça, des compétences nécessaires pour former à distance. Juste un exemple, tout à l'heure, Richard a cité que j'avais fait un rapport auquel Emmanuel Hanotte a participé, d'ailleurs, pour le ministère de l'Enseignement supérieur sur l'état des lieux de la formation de la pédagogie. Une chose m'avait beaucoup frappé dans ce rapport, le numérique est omniprésent, par exemple, sur la question des MOOC, comment concevoir des MOOC, comment utiliser des plateformes, mais il n'y avait jamais rien sur la formation à distance. Il n'y avait rien, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune demande de la part des enseignants du supérieur autour de ça, mais peut-être plus inquiétant, il n'y avait aucune véritable offre de formation faite par les services de formation d'enseignement supérieur. Or, aujourd'hui et demain surtout, si on voit j'ai bientôt terminé, si on voit donc l'agenda 2020 de Bologne, hein, qui incite beaucoup aussi à ce que les adultes reviennent en formation et en formation d'enseignement supérieur. Enseignant supérieur, ça sera aussi enseigné dans des formats à distance, ce qui laisse sous-entendre qu'au fond, au travers de ce rapport, les acteurs de l'enseignement supérieur ne se perçoivent pas comme des acteurs de la formation d'adultes, et à mon avis, c'est un point qui est extrêmement problématique. Et donc, voilà, en termes de recherche, je pense qu'il est tout à fait essentiel d'arrimer enseignement supérieur et formation des adultes.
Merci Laurent. Qui souhaite continuer ?
Je peux continuer ? Oui. Alors pour moi, il ne s'agit pas d'un point aveugle, c'est un point qui a évidemment été travaillé, c'est de continuer à clarifier le lien entre recherche et formation des enseignants. Alors j'avais prévu de vous dire en quelques mots comment on essayait de traiter cette question. En vous parlant de la recherche-intervention, je vais éviter de faire de grandes généralités qui ne voudraient rien dire. Mais juste l'idée, en tout cas importante, de ménager à la fois des dispositifs qui continuent à élaborer des recherches sur l'enseignement et qui, en même temps, contribuent à faire évoluer, enfin, pour la formation. Et par rapport à ça, il y a quand même un point qui est extrêmement important, parce que ce type de dispositif, ce n'est pas en formation initiale qu'on va le trouver, c'est plutôt en formation continue. Et alors, du coup, ça va faire un clin d'œil à la question relative, au propos de Gilles Monceau tout à l'heure. Se pose, dans ce cas-là, une question de commanditaire. C'est-à-dire, alors, déjà, on peut parler de financement. Qui finance ? Est-ce qu'on voit bien que du côté de ceux qui financent habituellement la formation, ce n'est pas très important. Mais il y a quand même un autre point qu'on rencontre au quotidien des petits travaux qu'on peut conduire à Toulouse. C'est le fait que, généralement, ceux qui acceptent de financer, ce ne sont pas ceux qui sont concernés. Et il y a toujours un écart entre le commanditaire qui finance et les formés. Et dans ce décalage-là, c'est-à-dire entre une commande de formation et la mise en œuvre de formation, il y a toujours un écart. Et cet écart-là, à mon avis, c'est un point névralgique qui pose beaucoup de problèmes et beaucoup de questions, et sur lequel il me semble qu'on a encore à s'interroger, en tout cas nous, de notre côté.
Merci Jean-François.
Alors, pour faire travailler ensemble encore plus la formation des adultes et la formation des enseignants, je voudrais aller sur le plan du développement professionnel. Je sais que si Richard avait pu prendre la parole à notre place, il l'aurait fait. C'est vrai qu'on voit bien, je le disais tout à l'heure, la formation continue des enseignants n'est pas développée. Et on sait aussi que pourquoi elle n'est pas développée, pourquoi les enseignants ne sont pas motivés, c'est parce que ces offres de formation ponctuelles, décontextualisées, fragmentées, ne les motivent pas plus que ça. Par contre, dès qu'on cherche à les engager dans un processus de développement professionnel où on prend en compte le sujet, on voit que là, il se passe quelque chose. Et ça, la formation des adultes, avec le travail collaboratif en particulier, a montré que ça les intéressait. Donc, moi, ce que j'aimerais qu'on fasse au niveau de la formation des enseignants, c'est qu'on travaille davantage. Alors, le travail collectif développé par Jean-François Marcel ou Thierry Piau existe déjà, la formation des enseignants, mais qu'on travaille davantage sur le développement professionnel comme un vrai processus d'apprentissage professionnel continu au plus près des problèmes des élèves dans des organisations imprimantes, dans ce que les Québécois appellent les communautés d'apprentissage professionnel. Il y a des travaux récents là, de 2017 du Québec sur comment valoriser le développement professionnel des enseignants en les faisant travailler ensemble sur la réussite des apprentissages des élèves qui donnent des résultats tout à fait intéressants. Et je pense que c'est là-dessus qu'on devrait travailler. Mon deuxième point, c'était la FOAD, mais ça a été traité par le collègue. Merci. Comment on l'a développé en formation d'enseignants en hybride, bien entendu, formation en présentiel et formation pour les grandes distances.
Merci. Daniel ?
Alors, trois mots, parce que je n'arriverai pas à dire aussi bien que mes collègues ce qu'ils ont dit. Je suis d'accord avec à peu près tout ce que vous avez dit. J'aimerais quand même réintroduire la formation initiale, parce que je crois quand même que la socialisation première à un métier est très importante et que les questions de temporalité sont des questions, si elles sont identifiées, elles doivent être dépassables. Moi, je pense beaucoup à tout ce qui est au niveau de l'alternance. Je pense que cette réintroduction du travail devrait permettre de vraiment améliorer toute cette formation d'alternance en prenant en compte les besoins du terrain, ses spécificités. Et puis aussi, alors dans notre institution, nous sommes très, très intéressés par toutes ces questions d'hybridation qui semblent, d'après les travaux d'une de nos collègues, remettre en cause justement toute la question du présentiel, du distanciel, où on arrive vraiment à devoir réinventer des modalités de formation qui cassent, à quelque part, les schémas que nous avons. Donc il y a beaucoup de nouveaux champs qui s'ouvrent, mais en même temps, il ne faudrait pas continuer dans cette course en avant qui fait qu'on oublie les recherches qui ont 10 ans, alors que c'est assez clair, et je trouve... moi, je suis toujours très déçue, ça ne me fait pas rajeunir d'entendre des discours que j'ai déjà entendus il y a 20 ans. Au contraire, ça me laisse un peu frustrée, un peu triste, parce que je pense que tout ce qui a été écrit, justement, dans les deux dernières décennies du 20e, début du 21e siècle, a vraiment quelque chose de très fort, de très riche, et qu'il convient d'apprendre de tous ces travaux, d'apprendre de toute cette richesse et toute cette mine, toute l'analyse des pratiques qui a été faite, quelles sont les limites, quels sont les espoirs qui sont ouverts. Et je pense que là, on a encore beaucoup à faire, y compris en formation initiale.
Merci. S'il y a une ou deux réactions, questions, sinon on va passer à la conclusion de cette table ronde.
Merci. Paul Olry d'AgroSup Dijon. Je me demandais si dans les pistes du futur, il n'y avait pas aussi quelque chose qui permettrait de prendre en compte la totalité du travail. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du rapport des enseignants avec les élèves et de tout ce qu'il faut organiser effectivement en termes de dispositifs et de rapport aux élèves. Mais il me semble qu'on prend assez peu en compte les organisations du travail et la prescription des enseignants. Et il me semble qu'une des pistes serait aussi peut-être de penser le travail comme un travail d'équipe, un travail où il y a de la collaboration, mais y compris avec la hiérarchie des établissements, parce que quand on parle d'hybridation, il y a une vraie interrogation sur l'organisation, à la fois qu'elle soit scolaire ou qu'elle soit dans les formes de formation. Et il me semble qu'il y a un travail, il y aurait une piste là de travail à creuser, dont elle n'est pas nouvelle, hein, mais il me semble qu'on a du mal à la travailler.
Merci Paul. En tout cas, merci à nos quatre intervenants. Merci à tous et à toutes. Et je voulais dire, dans le prolongement peut-être de ce qui vient d'être dit au sujet des points, alors c'est ce que sont des points aveugles ou des points à développer. Je pensais notamment à de nouveaux objets, de nouveaux champs qui sont peut-être un enjeu. Je pense à des travaux qui sont développés récemment autour de la question du domicile et de l'évolution du domicile. On en parlait ce matin. Et là, il y a sans doute des nouveaux objets et des nouveaux champs dans lesquels les sciences de l'éducation auraient sans doute des apports importants à faire. Et puis en lien avec ce que disait Paul, mais c'est pas ce que disait Paul, c'est pas une conclusion du tout. Peut-être que l'enjeu, c'est d'essayer d'articuler plus étroitement travail, formation et organisation, ce qu'on a peut-être du mal à, effectivement. Enfin, je pense que c'est ce que tu voulais faire, que ce soit dans le champ de la formation des enseignants ou plus largement. En tout cas, merci à tous et à toutes. Et je n'en dirai pas plus en termes de conclusion, parce que ce serait bien maladroit de ma part. Merci encore Laurent, Daniel, Jean-François, Maggie, et bon appétit. Oh, il est cool.